comprendre que la rencontre, c'est une fourmi, des outils de pensée pour comprendre le choc et y réagir.
Oui, parce que le stress, c'est un sentiment qu'on éprouve tous. Le stress, souvent, c'est de, quand on est stressé, on ne sait pas très bien pourquoi on est stressé. On est stressé parce qu'il y a un problème qui n'est pas véritablement localisable. Comme dans le terrorisme. Dans le terrorisme que nous connaissons aujourd'hui, il y a une perte de confiance dans le monde, dans les éléments les plus on prend le métro, on se promène sur la promenade des Anglais, on boit un verre avec des copains, etc. Et c'est vrai de tout terrorisme, mais c'est encore plus vrai parce que aujourd'hui, par exemple, une cocotte minute peut être considérée comme une arme de destruction massive si on la remplit de clous et qu'on la fait exploser lors d'un cross comme un Boston. Et je crois que le stress, c'est aussi, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas être à la hauteur. On se dit, il va falloir que je me... Est-ce que je vais réussir à ce job? Est-ce que je vais réussir ce pari? Est-ce que je vais réussir cette période? Et c'est exactement ce que nous éprouvons pour le terrorisme. Finalement, on est tenté, on est guetté par... on pense à jeter l'éponge. Et c'est précisément le
but recherché.
Qui est le but recherché, exactement. C'est-à-dire que les Anglais à Londres avaient moins peur, étaient moins stressés sous le Blitz que les habitants de New York ou de Paris qui prennent le métro. Parce qu'ils savaient où était l'ennemi. Et ils savaient que résister, c'était résister aux nazistes, aux fascistes, c'était défendre l'indépendance et la liberté. Et donc, voilà, je crois que plus profondément encore, si on a pris cette métaphore psychologique, c'est parce qu'on voit bien que dans nos sociétés, aujourd'hui, un peu fatigué, peut-être. On est tenté par le fait de jeter l'éponge et de renoncer à nos valeurs, à nos libertés, pour plus de sécurité, pour ne pas avoir à affronter ce nouveau défi.
On est fatigué à un point tel qu'on jette l'éponge à un sens métaphorique, qui est se trouver un ennemi alors que l'ennemi n'existe pas. Aussi simplement que dans notre imagination. On appelle ça le terrorisme islamique. Hein, c'est une manière de définir une cible parfaitement claire qui doit être rassurant à un tel point que tous les hommes politiques, depuis les chefs d'État jusqu'à leur gouvernement, rentrent dans ce jeu de définir un ennemi.
On l'a très bien vu le soir du 13 novembre. Le président Hollande dit, et peut faire l'état d'urgence, il a raison, je pense qu'il a absolument raison ce soir-là, et il dit, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et on est effectivement en guerre, on bombarde le nord de l'Irak et une certaine zone du Syrie. Mais en réalité, le terrorisme, c'est une coproduction d'une crise interne à l'islam et d'une crise interne à nos sociétés. Et c'est pour ça que c'est perturbant. Et aujourd'hui, il se trouve que je fais des groupes de parole avec les jeunes détenus en prison. Il y a une grande partie de ces jeunes, on ne voit pas des critères, j'allais dire, qu'on attend de jeunes radicalisés parce qu'ils sont discriminés, c'est pas vrai, parce qu'ils viennent de milieux pauvres, parce qu'ils sont pas tous pauvres, parce que ce sont des jeunes hommes, il y a des familles entières. Parce que ils sont même très religieux, tous ne sont pas très religieux. Et c'est ça qui est perturbant.
Non, de toute façon, c'est l'aspect religieux est plutôt une perversion de la religion que la religion elle-même. Oui, il n'y a pas eu de tentation de votre part, Noël Schmitt, de peindre le bas de flamme, de peindre le bas.
Si je m'étais trouvé là, je l'aurais dessiné. L'avantage, je pense que tout est dessinable. Tout n'est pas photographiable, mais on peut tout dessiner. Même si c'est un coup de pinceau. J'y étais pas, je ne l'ai pas dessiné. Mais c'est ça qui est bien dans l'aquarelle. Je le vois, je le fais. Donc, qu'est-ce que donnera demain? On verra bien, mais en tout cas, je pense que tout est envisageable. Il n'y a rien qui ne soit dessinable. En tout cas, je suis absolument... J'ai dessiné la mort, j'ai dessiné la naissance. C'est quelque chose qui était très bouleversant, mais je pense que d'être bouleversé, ça aide au dessin, ça n'est jamais un empêchement à faire. Au contraire, c'est quelque chose qui pousse le pinceau Donc il n'y a pas de limite à pousser le pinceau.
Je crois qu'on a une grande difficulté que ressent, je ne sais pas si vous la ressentez comme moi, on a une grande difficulté en raison des 70 ans de paix qu'on a vécu et en raison du fait que nous vivons dans une société démocratique, à parler du mal, à regarder le mal, sans être voyeur et sans faire encore plus de mal à la victime. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu dans les difficultés sur les commémorations, on le voit dans des livres comme celui d'Yvan Jean-Bompard, qui est un livre qui a eu énormément de succès, et qui est une manière de regarder le mal. Il me semble que l'aquarelle et le travail de Yoel Henschmidt, sa force, c'est que tu disais qu'on ne peut pas tout foutre par film, on peut tout dessiner. Et ça, je crois que c'est... Moi, je trouve ça extrêmement profond, parce que ça veut dire qu'on est dans une espèce de technologie où tout est filmé, où tout est montré sous sa version indicielle. Eh bien non, l'aquarelle, le dessin, l'art, a quelque chose de supérieur.
Mais parce qu'on le fait à deux. Pardon, on le fait à deux. L'aquarelle, on ne le fait jamais seul. Si je dessine quelqu'un, je dessine avec la personne que je dessine, puisqu'en plus, on parle. Donc c'est un dessin, une aquarelle se fait avec le sujet. Et si, je ne vais pas dire si c'est, si c'est une ville, ben si c'est une ville, si c'est une rue, je vais dessiner en même temps que ceux qui passent. Donc c'est toujours un dialogue. Je pense que l'aquarelle, immédiatement, elle instaure entre celle qui fait et celui qui est dessiné ou la scène, une espèce de proximité immédiate. Ça, j'en suis certaine.
Lors des attentats de Saint-Michel, je me souviens d'une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il y a une femme qui était brûlée et dont les vêtements avaient brûlé et qui suppliait les journalistes de ne pas la photographier. Et des journalistes qui ont cru devoir la photographier quand même. Eh bien, il me semble qu'elle n'aurait jamais eu ce scrupule avec une appareille. Parce que c'est autre chose.
Je vais vous raconter quelque chose. Il y a une fois dans ma vie où je n'ai pas dessiné la personne qui me parlait. C'était à l'hôpital, devant un grand brûlé. Pendant des jours, j'avais, dans les couloirs de Rothschild, l'hôpital Rothschild, rencontré cette personne. On aurait dit Elephant Man. C'était donc un visage extraordinairement déformé, impressionnant. Le directeur le chef de service me dit « Quelqu'un voudrait vous parler », c'était cet homme. Donc, je vais dans une petite pièce, et cet homme s'assied devant moi et commence à me raconter sa vie. C'était un grand brûlé qui commence son témoignage en disant « J'ai eu de la chance ». Je me suis dit « Si je dessine cet homme tel que je le vois, personne ne lira son témoignage ». C'était un témoignage somptueux de force. Eh bien, j'ai pris des notes et je n'ai pas dessiné cet homme. Et ce témoignage reste anonyme, mais la parole est tellement forte qu'on a envie de la lire. Si je l'avais dessiné, on ne pouvait pas le lire. Donc là, c'était la limite. Je disais tout à l'heure qu'on peut tout dessiner. Là, c'était la limite de l'aquarelle. Il faut rester en retrait pour que le texte, à ce moment-là, prenne toute sa valeur. C'est ce que j'appelle le respect à la personne. Et on ne peut pas être aquarelliste reporter sans être d'abord respectueux de la personne qu'on a devant soi. Donc c'est un dialogue et c'est pas un combat, jamais.
On cite cet exemple du peintre qui devait représenter la douleur d'Agamemnon, le père d'Iphigénie, alors il condamnait sa fille à mort, et le peintre a représenté l'assistance convulsée de douleur. Mais comment va-t-on représenter la douleur au carré, qui est la douleur du père, n'est-ce pas? Eh bien, il l'a représenté derrière un manteau. Dans le théâtre classique, le crime se passe dans les coulisses. Oui, je voudrais que vos auditeurs deviennent maintenant vos interlocuteurs et posent des questions. On a le temps de 2 ou 3 questions.
Noël, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a frappé à propos du Conseil des ministres. Vous avez parlé du très tôt. C'est la table du Conseil des ministres, oui, sur du très tôt.
Absolument, il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Ce sont des très tôt, on ne peut pas plus ballon ou banal, sur lequel on pose des morceaux de bois qui sont accrochés les uns avec les autres, comme chez nous, sauf que c'est un peu plus grand. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le côté banal de l'installation et le côté pompeux du résultat. C'est le paradoxe de la politique.
C'est quand même un peu fragile, ce gouvernement. Et tous les gouvernements réfléchissent, discutent. Absolument. Mais des traiteaux. À vous, bien, tout est renversé.
Mais les institutions sont fragiles.
Monsieur Garapon, puisque vous êtes à Strasbourg, je pense que vous avez observé les checkpoints, les gendarmes, les policiers en armes, etc., et les militaires de Sentinelle. Et j'aimerais savoir si, bon, qu'ils sont là pour rassurer par rapport au marché de Noël, hein, c'est la version officielle. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça, et est-ce que vraiment ça vous semble efficace, et est-ce que derrière le... Comment dire, l'idée de rassurer la population pour que les affaires tournent au marché de Noël et ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et je dis ça avec l'état d'urgence prolongé, évidemment, jusqu'au 15 juillet.
Il y a plusieurs questions dans votre question. Je dirais qu'on est pour l'instant totalement pris au dépourvu. Totalement pris au dépourvu parce qu'il faut traiter deux menaces de nature tout à fait différentes. Une menace qui vient d'un complot, d'un crime organisé, pensé, qui est plus facile à déjouer, et une menace comme celle de Nice qui est quasiment imparable. Alors, premièrement. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que, et c'est le fruit direct de la déterritorialisation. C'est-à-dire que moi je suis toujours surpris quand je vois un peu consterné quand je vois des militaires en armes, et ça me fait penser à Alger en 1961, c'est la même ambiance. Ils rassurent la population, on est en train de repenser leur mission, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut retrouver la maîtrise de leur public. Alors ça a été une difficulté qui était, à mon avis, qui a justifié l'état d'urgence quelques jours après le 13 novembre. Mais je pense que la prolongation de l'état d'urgence n'est pas une bonne chose. Vraiment, elle est inefficace. Et deuxièmement, elle s'épuise, elle se fatigue aussi, l'efficacité de l'état d'urgence. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et puis enfin, ce à quoi on assiste avec l'accumulation des lois, c'est à une transformation, une modification de notre état de droit. Et ça, c'est préoccupant. Et il me semble que c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On n'aurait pas dû, à mon avis, prolonger l'état d'urgence. Il faut que tous les citoyens soient responsables et qu'ils mesurent la gravité, la responsabilité qui pèse sur chacun d'entre eux de se garantir réciproquement la sécurité, ce qu'on entend, regarder. Bon. Donc, il faut, voilà, vivre sous stress et bien gérer son stress.
Vous êtes intéressé à l'ensemble du processus d'élaboration d'une loi, et vous savez bien qu'une loi ne peut pas entrer en vigueur sans les décrets d'application, qui parfois tardent, et parfois sont assez étonnants, et je me réfère à un reportage qui a été présenté hier soir au journal télévisé 20h sur Antenne 2. On parlait de la loi Macron. Alors, je quitte le terrorisme, mais je reste sur le domaine de la loi. On parlait de la loi Macron, et notamment un de ses aspects qui était l'ouverture à la concurrence du monde des notaires, avec la multiplication du nombre d'offices notariaux pour permettre à beaucoup de jeunes de s'implanter et de permettre un accès plus facile aussi aux clients. Et finalement, les décrets d'application ont décidé quelque chose qui n'était pas du tout prévu par la loi, c'est que les notaires déjà implantés pourraient bénéficier aussi du tirage au sort de la distribution des 1000 et quelques nouveaux offices notariaux qui étaient prévus par la loi. comme c'était relativement contradictoire avec l'esprit de la loi, puisque ça refermait en partie la concurrence, un reportage a été fait, on s'est tourné vers Matignon, vers Bercy, vers le cabinet de le garde des Sceaux, et personne ne savait d'où était venue cette modification qu'il avait introduite. L'histoire s'est arrêtée là en ce qui concerne le reportage formatéisé, donc on reste encore le souffle suspendu jusqu'au moment où on saura. Et comment est-ce possible à ce moment-là que des décrets d'application dans le secret des bureaux ministériels puissent aboutir à une telle dénaturation de l'esprit de la loi votée par la représentation nationale?
Alors c'est une très bonne question et je vous invite à regarder attentivement le livre, parce que justement ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il commence dans une discussion. Il commence dans une discussion d'un député qui est à Vénissieux, je crois, dans une association d'anciens combattants, ou je ne sais pas, une Marianne, bon. Une discussion. Et tout le travail de la loi, c'est un travail de délibération, et vous allez voir que c'est incroyable le nombre de gens qui travaillent, et alors ce qu'on aurait appelé hier la technostructure, c'est-à-dire qu'il y a les politiques, et il y a les conseillers d'État, il y a le secrétaire général du gouvernement, et son équipe, il y a le conseil constitutionnel, il y a tous les fonctionnaires des assemblées. Alors, vous avez raison de souligner cette affaire-là, mais on peut trouver beaucoup d'autres exemples dans lesquels il y a des lois qui ont été faites, des décrets d'application qui n'ont jamais été pris, par résistance passive de la technostructure, comme encore une fois, comme on disait autrefois. Voilà, ça c'est la vie démocratique. Et je crois que la loi, c'est un moment particulièrement important, parce que c'est encore la meilleure manière de se mettre d'accord et de se gouverner, de s'auto-gouverner. En même temps, c'est une boucle. C'est une boucle. Et pour faire lien avec la réponse que je faisais avec votre voisin, les médias, la conscience, la vigilance sont une partie de la vie démocratique. Elles commencent dans une discussion, elles se terminent dans une discussion, comme celle que nous avons soi.
Une dernière intervention.
Vous disiez tout à l'heure donc, ce qu'on a entendu. Enfin, on prolonge donc ces mesures de sécurité. Mais alors justement ma question, moi qui étais à Nice, donc pour vous, il faudrait plutôt donc faire confiance, enfin nous faire confiance les uns aux autres. Et j'ai perdu le fil, pardon, je suis désolée. Voilà, s'il n'y a pas ces mesures-là. Vous, comment vous verriez alors justement le rôle du gouvernement dans tout ça?
Alors, il y a plusieurs mesures. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui marche le mieux, c'est le renseignement, c'est tout ce travail des services secrets intérieurs. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, parce que les services secrets, c'est mieux pour l'extérieur. Maintenant, ils sont à l'intérieur. Et pour travailler avec les services de police sur la déradicalisation, ils se heurtent toujours à des administrations, à des gens qui ne veulent pas donner de renseignements, qui ne sont pas des collabos. Je crois que ces gens-là se trompent d'époque. Ils se trompent d'époque parce que aujourd'hui, le péril est tel et la manière de le prévenir demande que on se fasse confiance mutuellement et qu'on fasse confiance dans nos institutions. On n'est plus dans l'image, c'est la période que nous vivons, on est dans une période de transition. Vous voyez, il y a 20 ans, on avait eu peur d'une surveillance de masse, l'état du contrôle, l'ordre moral, c'est plus la période que nous vivons. Alors, les mesures les plus efficaces, ce sont les mesures de détection, de prévention, qui sont pour l'instant, qu'on ne sait pas tellement comment les encadrer. Alors ça, c'est la difficulté. Comment est-ce qu'on rend des services de renseignement démocratiques?
Je voulais dire, le droit, la justice et la loi en France sont tellement complexes et compliquées. que si Dieu lui-même viendrait vivre en France, il serait perdu. Alors j'ai une petite question pratique. Normalement, pourquoi il y a des cas de jugement qui n'ont donnent pas le droit ni à faire appel, ni à opposition, normalement on a le droit de. Il y a un premier jugement, éventuellement donc un recours, une cassation. Mais il y a des jugements dans lesquels il devient définitif dès la première fois sous prétexte des sommes qui sont mises en jeu. Alors si on vous condamne à payer par exemple 7 500 euros, peut-être. Et que vous avez perdu le premier procès, vous n'avez pas le droit de faire un appel. Donc, d'un coup. Alors, c'est un exemple. Donc, si on vous condamne à payer 7 500 euros pour qu'ils soient pas une grosse somme, mais pour quelqu'un qui aurait réalisé sa minima sociale, ça représente une année de revenus.
Bien sûr. Mais alors, à ce moment-là, vous pouvez faire appel quand même devant le tribunal de grande instance. Si vous voulez, le principe, c'est qu'on peut faire appel de toutes les décisions. Alors, parfois, on est fort clos pour faire appel pour des raisons juridiques. Mais le principe est, qui est une particularité du droit français d'ailleurs, hein, et dans beaucoup d'autres systèmes. Et
donc, la question que je vous posais, est-ce que c'est de point de vue droit, est-ce que c'est pas anticonstitutionnel? Est-ce qu'on a préparé, je parle des jugements en dernier ressort.
Mais quand vous avez un jugement en premier et dernier ressort, je verrai ça, vous avez toujours la possibilité de le faire revoir devant le tribunal de grande instance. Donc, il n'y a pas dans le système français de jugement dans lequel vous trouvez un juge qui dit une fois pour toutes. Il y a toujours des recours. Et même là, le niveau européen a introduit, à Strasbourg même, ici, j'ai le plaisir de l'évoquer, où il y a une instance supérieure. Alors, ça ne marche pas pour nous, c'est heureux, ça a beaucoup de problèmes, mais il y a un recours.
On m'avait interdit de faire appel, on m'avait interdit de faire recours dans un cas comme ça en jugement en dernier ressort, ici à Strasbourg.
Je peux pas en dire.
La Cour de justice de la République. Mais il me semble que l'appel en Cour d'assises, c'est relativement récent.
Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est la loi Toubon. C'est la loi Toubon, c'est 2005, je crois, donc quelque chose comme ça. Donc, et on est plutôt dans une période dans laquelle on perfectionne, on multiplie les garanties et les recours.
Je me salue de mon micro comme arme de destruction massive du débat. Par contre, il nous reste le temps maintenant de remercier Antoine Carapon et l'ONG.